Il est à présent l'heure de retrouver votre émission Écriture dessinée sur les ondes de Radio Escapade en compagnie de Bruno Canard. Bonjour Bruno.
Bonjour Fabien. Aujourd'hui, nous allons écouter, nous entretenir avec Florent Modou, qui est un auteur qui fait partie du label 619, label qui a d'ailleurs été repris par les éditions Rue de Sèvres après avoir été chez Ankama. Donc, plusieurs séries auxquelles Florent Modou a participé, comme de Guy Bag, mais aussi dans Friskel, où il a fait plusieurs tomes. C'est donc un auteur contemporain qui avec Cloud, présente une nouvelle série dont le tome 1 vient de sortir. Nous serons avec Florent Modou aux alentours de 14h15. À tout de suite.
Écriture dessinée.
Bonjour à toutes et à tous, Fabien est aux manettes, la programmation musicale a été choisie par Florent Modou, et pour encadrer ce premier numéro, ce premier tome de Cloud, eh bien, je voudrais vous présenter trois livres qui ont un lien direct parfois, mais pas seulement, mais qui en tout cas sont sur des préoccupations extrêmement contemporaines. Je vais commencer par Circuit court de Tristan Thill pour la partie scénario et de Claire Malary pour la partie dessin. Circuit court est sous-titré « Une histoire de la première AMAP ». C'est bien plus que cela. C'est bien plus que simplement savoir comment cette association pour le maintien d'une agriculture paysanne a vu le jour. C'est évidemment au centre du récit, mais il y a un ensemble, une histoire qui est celle de d'un couple d'agriculteurs, Daniel et Denise Vuillon, qui vont être les acteurs de cette première AMAP, mais qui vont raconter leur histoire d'agriculteurs et d'agriculteurs paysans. C'est, je crois, la première force de ce livre, c'est de faire une sorte d'historique de notre manière de nous alimenter, de voir comment l'évolution de l'agriculture s'est réalisée, quelle est la part, par exemple, de la grande distribution, de la PAC, de différentes décisions qui ont changé véritablement et en profondeur le métier de paysan et de paysan nourricier. Il y a une introduction de quelques pages qui est certainement une étape dans cette industrialisation qui a perturbé l'alimentation. Ça se passe à Minamata, au Japon, en 1957, et on découvre dans les aliments des traces de mercure dues à une industrie qui est en bord de mer et dont les rejets ont contaminé les poissons, et par la consommation qui en est faite, eh bien, va perturber littéralement les naissances, la santé de la population. Il y a, face à cette situation, une coopération qui s'est mise en place et qui sera le fondement idéologique des AMAP. La force de ce livre est vraiment de nous amener, de nous faire prendre conscience de ces étapes dans les modifications de notre alimentation. Il y a bien sûr les grandes surfaces, mais Daniel et Denise Huilon vont faire bien plus que cela et vont raconter comment le père de Daniel cultivait l'artichaut, avait un certain nombre de débouchés, et à ce moment-là, cette culture fonctionnait plutôt très bien. Et puis, il y a eu une sorte de mise à la retraite, et Daniel va changer, va s'adapter, va trouver par exemple de très nombreuses variétés de tomates et qu'il va cultiver dans toute leur diversité. Mais il fallait aussi trouver des débouchés pour assurer la survie de l'exploitation. Je ne vais pas détailler et reprendre toutes les étapes définies par le livre, mais à chaque fois, on a donc l'arrivée de la grande distribution avec des exigences de calibrage, la rencontre inespérée, parce que en tout cas très féconde, avec Alain Ducasse, un grand chef étoilé, qui va acheter la production de Daniel et Denise grâce à leur qualité gustative. Ce sont ces quelques étapes, et donc à chaque fois, nous sommes dans cette histoire très profonde de la modification de l'agriculture française en général, de ce rapport à la nature et au fait de se nourrir grâce à elle, et comment les paysans et les paysans nourriciers ont perdu beaucoup dans cette industrialisation. Daniel Huilon cite qu'en Provence, 15 000 exploitations simplement ont fermé dû à ces différentes décisions qui ont complètement changé le modèle agricole. Il y a toujours, et c'est l'axe souterrain de ce livre, cet axe narratif sur le plaisir de manger et la santé, sur cette image du paysan nourricier. Claire Malary, qui a mis en image et en dessin, a un certain nombre de partis pris pour ce travail. Alors, c'est une bichromie, donc on a un travail de noir et blanc avec un trait qui est plutôt dans la finesse, un travail sur l'ombre qui est porté plutôt par les nuances de cette couleur verte, un vert un peu passé, mais qui a beaucoup de vie, et ce n'est pas l'aplat noir qui va faire l'ombre ou certains effets de matière. Donc on est dans ce travail de traits plutôt léger, mais qui donne une présence à l'image indéniable. Il y a des réserves que je peux émettre sur la mise en image, mais c'est juste de simples réserves sur la façon de mettre en couleur par touche et pas toujours en utilisant un aplat qui ne donne pas toujours la meilleure lisibilité, ou cette façon de mettre les récitatifs à cheval sur les cases, ou parfois qui sont carrément au centre même de l'image. Mais hormis ces deux petites réserves, il y a un récit qui fonctionne pleinement, parce que nous sommes avec Daniel et Denise Huilon. Les deux auteurs, Tristan Thil et Claire Malary, sont allés les voir, ont passé du temps avec eux pour découvrir comment, grâce à une initiative américaine à New York, les CSA, ils ont eu l'idée de créer cette première AMAP. Un livre essentiel parce que c'est l'histoire de notre alimentation et des paysans nourriciers. Tristan Thil pour la partie scénario et Claire Malary ont écrit ce circuit court, une histoire de la première AMAP. C'est publié par les éditions Futuropolis. Je vous donne les 128 pages de ce récit, sont au prix de 23 €, et je vais vous donner le lieu d'impression du livre, c'est la Belgique. Virgule. Autre ambiance avec le livre suivant, mais il y a quand même des ponts, notamment sur ce dérèglement civilisationnel. Dark Quentin est le premier livre de Matao, un roman graphique qui démarre avec une scène très convaincante, assez exceptionnelle, puisque on va découvrir Quentin, qui est un gamer, un no-life, qui passe son temps, et c'est vraiment pas peu dire, à jouer sur les réseaux. Il y a manifestement une non-vie, comme on dit, avec Quentin et sa mère, puisque elle l'échange avec une de ses amies sur comment faire avec Quentin. Et on voit Quentin à l'œuvre sur les réseaux, à jouer et à être absorbé, phagocyté par ce monde virtuel. Et puis il y a le jeu, l'envie d'uriner, on le fait dans des bouteilles qui s'entassent parce qu'on voit personne, on est complètement isolé, et l'accident arrive, du liquide se répand sur l'ordi, le PC est mort. Alors, après une vingtaine de pages, quand vous avez une telle situation, on comprend beaucoup mieux les réactions, on comprend beaucoup mieux ce qu'est être absorbé littéralement par le réseau. Matao va utiliser ce préambule, ce prologue, cette introduction pour renouveler complètement le récit de vampire. En fait, Quentin est un vampire, il est repéré par Issa qui va l'amener au château où d'autres vampires sont là, et notamment le maître des lieux intitulé La Goule. Issa et Oscar seront les deux autres personnes, autres vampires que Quentin va rencontrer. Bien sûr, il va rencontrer La Goule. En fait, Quentin a des dispositions et il va créer une machine pour vampiriser et essayer d'atteindre le titre suprême de vampire originel. Tout va passer par la machine, et c'est la force de ce récit, l'axe de ce renouvellement, c'est que nous sommes sur du cyber-vampirisme. C'est la connexion qui permet de vampiriser à distance. Et il y a une métaphore très forte sur cet envahissement de l'espace de vie par la machine et par l'hyper-connectivité. Le câble, le réseau va être de plus en plus présent et va immerger Quentin, va immerger les lieux. Il va être constamment dans cette hyper-connexion pour arriver à ce titre suprême. C'est cette grande force de mettre en récit, aussi par la métaphore, ce changement de situation où on passe d'un être phagocyté par le réseau à un être qui va phagocyté sur le réseau grâce au réseau. Cette métaphore aussi sur la façon dont le réseau vous absorbe est aussi très efficace. Il y a une autre chaîne narrative souterraine qui croise cet ensemble, c'est l'absence du père, et trois cases vont être à la fin un hommage à son père, et Matao va le nommer dans la dédicace finale, puisque son père n'est autre que Yann Kefelek. Sur le plan du dessin et de la mise en scène, Matao a choisi un lavis et un trait plutôt doux, mais avec ses côtés saccadés. C'est-à-dire que c'est une succession de traits plus petits qui va donner un côté un peu perturbé à la silhouette, à la représentation, qui ne va pas être dans cette courbe très maîtrisée, mais vraiment dans une forme où on a une fragilité qui est associée de façon constante au dessin. Et puis le lavis, ça va fondre les atmosphères, il va y avoir beaucoup moins de contraste, et c'est aussi une mise en parallèle avec ces câbles complètement envahissants, qui rentre en résonance aussi bien avec le dessin et sa souplesse, et puis ce lavis qui n'est que rarement dans le contraste. Un premier album qui a été réalisé avec une résidence à la maison Fumetti à Nantes, qui mérite que en 2024 un reportage puisse être fait sur cette maison qui accueille de jeunes auteurs. Et en tout cas, c'est un livre très étonnant et un premier album qui montre déjà une écriture dessinée très prometteuse. Dark Quentin de Matao a été publié par les éditions Six Pieds Sous Terre. Les 160 pages de ce récit sont au prix de 22 euros. Et tout ça, vous pouvez le trouver très facilement à Entrée Libre, rue du Bail à Montpellier. Musique. Clove est le dernier monde créé par Florent Modou. Un monde dystopique où un épais brouillard a bouleversé les sociétés, les privant de transport puis d'énergie. Comme il le dit à la page 1, en 2042, cela fait 20 ans que la fête est finie. Et un peu plus loin, l'humanité a traversé le Dark Age. Trois personnages sortent des brumes et sont les héros de cette série. Prétorius, un elfe noir immortel, au visage défiguré. Isatis, une sorte de valkyrie, guerrière mais sensible. Et Xanthia, une centaure bipède à la puissance toute chevaline. Un univers d'heroic fantasy où la menace, ce sont les consommateurs, humains violents et sans scrupules, et les maraudeurs, créatures fantastiques sorties de terre, dirigées par un super maraudeur, divinité du mal. Une nouvelle série posant directement nos aveuglements et nos responsabilités dans les désastres écologiques, rendant hommage au savoir et au livre, imaginant des relations hommes-femmes plus libres, loin des clichés de ces récits de genre. Florent Maudou, diplômé des Gobelins, formé à la réalisation de films d'animation, affirme un dessin d'une grande sensibilité, au plus près des corps et des gestuels, avec un sens de la mise en scène apportant de l'intensité au récit. Déjà à l'œuvre dans Doggy Bags, par exemple, cette capacité à choisir le geste qui fait sens finit d'agripper le lecteur. Nous sommes avec Florent Maudou pour qu'il nous emmène dans son monde imaginaire. Nous sommes en 2042. Bonjour Florent Maudou.
Bonjour Bruno.
Alors, comment ça se met en place un univers complètement imaginaire, sorti tout droit de votre cerveau et de votre écriture? Alors, comment ça se passe?
Alors, déjà, ça sort pas complètement de mon cerveau, dans le sens où un univers imaginaire, en réalité, c'est plutôt la reconstitution de plusieurs univers qui sont bien réels. En réalité, en fait, c'est une écriture peut-être proche de Frank Herbert, c'est-à-dire je prends des éléments qui sont factuels, réels, qui sont issus de lectures aussi diverses et variées, et j'essaie de trouver du sens à ça. Je pense que c'est notre travail aujourd'hui en tant qu'auteur de fiction, de donner du sens à ce qui est le réel aujourd'hui pour aider le lecteur à comprendre les enjeux de demain et d'aujourd'hui, quoi.
Oui, alors, Florent Maudou, en partant de ce principe-là, vous choisissez quand même un certain éloignement aussi de notre réalité, avec Prétorius, qui est immortel, ou Xanthia, qui est une centaure. On est un peu loin de nos réalités.
À la fois, oui et non, c'est-à-dire l'immortalité, c'est quelque chose qui peut se ressentir, même si on est mortel, en réalité. C'est-à-dire que le sentiment de revivre les mêmes choses, de revoir les mêmes cycles, les mêmes crises économiques. Moi, j'ai 44 ans, j'ai l'impression d'avoir déjà vécu cette crise économique, la crise de la bulle immobilière qui nous guette, ou bien la crise du pétrole. Ça, en 89, on s'était mangé. Donc là-dessus, j'ai pas l'impression de créer particulièrement un personnage qui a besoin d'un super pouvoir. En fait, je voudrais m'éloigner des super pouvoirs. Et là-dessus, c'est plus une métaphore du sentiment de lassitude et d'avoir l'impression d'avoir vécu ces choses-là, d'une apocalypse qui est déjà arrivée, et que finalement, l'apocalypse, on la revit toujours et on s'en sort toujours. Après ça, je dis pas qu'il faut rien faire, je dis juste que c'est pas une fin en soi, c'est pas une fin du monde, dans le sens où vous avez parlé du Dark Age. Le Dark Age, bah, finalement, c'était une apocalypse pour les gens médiévaux qui avaient vécu, enfin, qui voyaient l'ère romaine comme un âge d'or dont ils étaient plus partis, parce qu'en fait ça a disparu. Nous, peut-être que dans 20 ans, peut-être que en 2042, on verra les années 2010-2020 comme un âge d'or. Et que on se dira, bah, aujourd'hui on circule plus en voiture, on vit très bien. Et d'ailleurs, en parlant des voitures, bah, c'est ça l'idée de mettre en scène des centaures, parce que je voulais un rapport entre l'homme et le cheval qui soit pas vertical, mais qui soit horizontal. C'est-à-dire que je voulais pas que le cheval devienne juste un moyen de transport et comme une moto qu'on garde dans un coin, c'est-à-dire un outil. Moi, j'ai beaucoup fréquenté les animaux, c'est les chevaux en particulier, et je suis un très mauvais cavalier, du coup, je les ai plutôt fréquentés au même niveau, quoi, sur le plancher des vaches, pour filer la métaphore. Ça m'a paru plus pertinent de mettre mes chevaux sur deux pattes, avec avec un rapport qui était d'humain à humain presque, plutôt que de le transformer en esclave.
Florent Modou, comment se passe concrètement cette cohérence d'ensemble et cette création? Vous prenez des notes, vous avez des recherches graphiques qui apparaissent déjà rapidement, vous définissez des personnages. Comment ça se passe?
Tout à fait, c'est ça, c'est une prise de notes mentale et parfois dessinée tout simplement dans un cahier que je remplis de croquis. Là-dessus, c'est plus pour ne pas oublier les choses et puis leur donner aussi une forme, c'est-à-dire, j'ai remarqué ça chez les jeunes générations, ils ont tendance à vouloir se passer de prise de notes parce que l'Internet étant là et c'est bien pratique, vous pouvez accéder à toutes les connaissances du monde en un clic. En réalité, non. Vous ne pouvez pas accéder à toutes vos expériences en un clic, parce que les expériences que vous vivez, c'est quelque chose qui est assez intime, qui fait partie de votre personne. Là-dessus, mes personnages, les situations, même les scrims, c'est des situations que j'essaie de vivre pour pouvoir les représenter avec le plus de justesse. Vous parliez de dessin réaliste, ou je ne sais plus très bien exactement le terme. Là-dessus, moi, si j'ai adopté ce dessin-là, c'est plus par nécessité, par besoin de raconter des personnages qui soient pas dans la caricature, mais qui soient dans un réalisme plus touchant, peut-être, qui permet l'imperfection, en fait. Et cette imperfection, du coup, me permet de raconter des personnages qui ressemblent, par exemple, à ma femme, à des gens qui m'entourent, là-dessus, c'est une narration qui me permet, j'allais dire encore permet, mais qui me laisse une liberté, en fait. J'essaie d'acquérir une certaine liberté de ton et de narration.
Alors, il y a par exemple dans... Alors, vous avez parlé du réalisme. Est-ce que c'est une façon d'authentifier ce monde à venir, Florent Modou?
Oui. Oui, bien sûr, j'ai pas vraiment voulu, je pense, la manière de je cherche d'authentifier le monde, la vision que j'ai. J'essaye juste de proposer une voie, une autre une expérience de la vie qui me permet de me dire voilà, j'ai l'impression d'avoir touché du doigt le bonheur quotidiennement, et j'ai une chance que j'ai envie de partager. Et voilà, et là ça prend une forme différente, c'est-à-dire on parle des dessins, mais en fait j'ai dans mon village de Gaulois, entre guillemets, j'ai représenté énormément de gens qui sont proches, c'est-à-dire les gens de la colonie Viviane. En réalité, c'est les membres de la compagnie Excalibur dans laquelle je suis membre. Et on s'entraîne à l'escrime médiéval, on donne des spectacles. L'expérience personnelle et le portrait, finalement, le portrait de ces gens qui m'entourent, et me permet de donner vie à des personnages qui ne soient pas des archétypes, qui sortent de leurs clichés.
C'est pour ça que dans Cloud, il y a cet hommage au savoir et aux livres qui sont une des chaînes narratives essentielles de ce premier tome.
Oui, tout à fait. Je pense que le livre... j'ai tendance à être matérialiste, hein, peut-être pas dans le mauvais sens du terme, mais je pense que le livre est important. C'est-à-dire que l'information qu'il contient... effectivement le surclasse, mais lui en tant qu'objet, le livre, d'ailleurs d'où la fabrication de la bande dessinée Cloud, le livre en tant que tel, c'est un objet, et là derrière ça permet aussi de hiérarchiser l'information, parce qu'aujourd'hui le numérique permet d'avoir une information à profusion tellement diverses et variées qu'en réalité on s'y perd. Le livre permet de hiérarchiser, de trouver, de donner une importance à l'image. Moi par exemple, j'ai fait un choix tout bête, je me suis dit je veux que la version classique de la bande dessinée soit en couleur, parce que je voulais que le papier soit le plus mis en avant possible, qu'on lui rende son... qu'on lui... qu'il soit mis en valeur le plus possible parce qu'il devient cher. C'est pas une démarche écologique, c'est une démarche pragmatique, je pense. Et les livres doivent redevenir rares en fait, ils doivent redevenir importants. Et je pense que cette quête du livre, cette quête de la connaissance, mais la connaissance sourcée, établie et critiquée aussi, d'où la présence des bibliothécaires. C'est pour moi, les bibliothécaires, les libraires, ce sont des gens qui sont essentiels dans la diffusion du livre. Les éditeurs aussi font un travail formidable, et ça, c'est la plupart des gens l'ignorent complètement. Ils pensent que les éditeurs sont juste des capitalistes qui cherchent à faire de l'argent. Ils comprennent pas non plus vraiment le travail de toute la chaîne du livre, ce qui est fait dans le livre. Et là, je me suis dit que voilà, je voulais parler de ce qu'allait être le travail des créateurs, des écrivains, dans un futur où on ne roulerait plus avec des énergies fossiles.
Florent Modeau, on a le sentiment que vous avez créé une série qui pourrait ne pas avoir de fin, en fait.
Bah, écoutez...
Est-ce que c'est une volonté?
Oui. Bah, c'est une volonté parce que en fait, il y a un jeu de mots. Hein, je crois qu'il est assez évident, c'est-à-dire que quand vous lisez Cloud avec le V romain, on lit Covid. Et c'est une volonté, c'est-à-dire que le Covid a encore des effets aujourd'hui. Il a été, il m'a ouvert les yeux sur plein de choses. Et je pense que on ne connaît pas encore la fin de l'histoire, le fin mot. Mais j'ai envie de penser qu'on peut vivre dans le cloud et on vivre dedans heureux. Dans le cloud, il y a aussi le LOV, love, donc une espèce de déclaration d'amour au final pour un univers qui est apocalyptique et qui dans lequel on ne pourra pas faire vivre 8 milliards d'êtres humains. C'est pas possible. Donc quelque part il sera forcément très difficile à vivre, mais je pense et je suis persuadé que l'entraide et l'humanité, l'empathie nous permettront de ne pas vivre une apocalypse zombie ou une apocalypse Mad Max, c'est-à-dire avec des groupes ultra dangereux et ultra violents. La plus grande difficulté, ça va être de survivre à un monde sauvage, parce qu'au final, la nature, enfin les énergies fossiles nous ont permis de dompter la nature, mais en réalité, elle est toujours aussi sauvage et toujours aussi dangereuse. Là, on se prend des retours de bâton climatiques qui sont ingérables. Donc quelque part, les maraudeurs sont ce retour à la nature, ce danger, ce retour au danger qui apparaît la nuit, qui apparaît lorsqu'on est loin d'un feu, qui apparaît lorsqu'on essaye d'aller trop vite avec des technologies qu'on ne maîtrise pas.
Florent Modeau, le principe de créer un monde comme ça, est-ce que vous êtes déjà beaucoup plus en avance que le lecteur qui lui n'a que le tome 1, ou comment ça se passe? Est-ce que vraiment vous avez déjà 2, 3, 4 tomes développés actuellement?
J'ai des tomes d'avance dans la tête. Là-dessus, c'est ma troisième série longue. Donc je commence à avoir l'habitude de travailler en série. C'est pas très courant aujourd'hui. Ce que je constate, c'est qu'on se dirige plus vers des séries courtes de 3 tomes maximum. Et la BD qui fonctionne le mieux, c'est les one-shots. Donc là-dessus, j'ai déjà eu l'opportunité de faire une série de 3 tomes en tant que scénariste. Là, pour une série, en général, il faut prévoir à l'avance, effectivement. Il faut savoir où on va. Parce que y a une promesse qui est donnée dès le premier tome, et cette promesse, c'est de trouver de représenter une issue à tous les enjeux qui sont présentés dès le premier tome, quoi. Et là-dessus, effectivement, il faut réfléchir en avance. C'est pas très formel, c'est pas forcément de nombre de tomes. Alors, je sais que le deuxième tome est déjà quasiment écrit dans ma tête parce que en réalité, le premier tome devait être un condensé du premier et du deuxième. Il a fallu que je coupe parce que ça devenait tentaculaire et dans ce cas-là, c'est plus une série mais plutôt un one-shot. Donc le deuxième tome est fait, la suite est en cours d'imagination, mais je me laisse aussi une part de liberté parce que une série, elle vit avec son temps. Et là, dans les années à venir, il va se passer des choses. Bulle immobilière, inflation, possible. Enfin, il y a deux guerres qu'on a sur le dos en même temps. Ça va forcément influencer mon écriture, ça va forcément influencer mon point de vue. Il y a des choses sur lesquelles je tiens, par exemple, vous l'avez souligné, le rapport homme-femme, que je vois pas revenir en arrière. J'ai pas envie, je vois pas non plus comment on pourrait revenir en arrière en termes de considération du rôle de la femme. Il y a des combats qui sont assez importants, le droit à ne pas vouloir d'enfants, des choses qui vont en plus dans l'air du temps, c'est-à-dire les femmes aujourd'hui travaillent plus tard, n'ont pas forcément envie d'avoir des enfants, et aujourd'hui on est trop d'humains sur Terre, donc pourquoi les forcer, quoi. C'est là-dessus, l'éthique est peut-être un travail de morale, même si je n'aime pas trop ce mot-là, mais c'est assez important d'avoir ce genre de réflexion par rapport à ce qu'on veut du futur, quoi.
À quel moment avez-vous vraiment lancé le dessin des pages? Vous parliez de garder un espace de liberté. Est-ce que déjà tout était découpé au moment où vous avez commencé à dessiner pour les planches définitives, Florent Maudoux?
Alors je travaille de manière assez classique finalement, alors même après avoir essayé de travailler directement en storyboard ou bien d'improviser un petit peu en écriture automatique, mais maintenant ça va faire des années, peut-être 13 ans ou 14 que je travaille tout simplement en écrivant un scénario sur lequel je vais prendre effectivement des libertés quand j'attaque l'étape du storyboard. Parce que des fois, un texte est descriptif, un texte ne fonctionne pas en image, et tout simplement, les dialogues sont toujours à retravailler. Donc, dès l'instant où je travaille le storyboard, effectivement, je me laisse une grosse part de liberté. Après ça, voilà, moi, je suis mon propre scénariste, donc là-dessus, je me simplifie la tâche. Et ensuite, effectivement, une fois que j'ai fini le storyboard, je peux attaquer le dessin. Je sors assez peu de mon storyboard parce que vraiment la phase d'écriture, la phase de qui donne vie au personnage, c'est vraiment le moment où il faut mettre en scène les personnages, les directions de regard, les éléments de décor qui vont de scénographie qui vont appuyer le sens de ce que vous racontez, quoi.
Florent Maudoux, je vous propose une pause musicale avec votre deuxième choix, c'est New Morricone, et on se retrouve donc juste après. À tout de suite.
Oh,
Vous êtes sur Radio Escapade dans l'émission Écriture dessinée. Nous sommes avec Florent Modeau à l'occasion de la sortie de du premier tome de sa nouvelle série Clothed. Alors, Florent Modeau, quel dessinateur êtes-vous? Comment ça se passe sur votre table à dessin? Parce qu'il y a vraiment, quand on regarde les pages, un enthousiasme de dessin qui est très communicatif au lecteur.
Alors moi, je suis de formation, je suis un pianiste. J'ai fait 9 ans de piano depuis mes 6 ans et ensuite j'ai arrêté parce que en réalité je préférais le dessin. Et en fait je parle de ça parce que quand on fait du piano, vous devez sortir l'inspiration et l'énergie, même si vous n'êtes pas forcément dans l'ambiance, même si vous êtes devant plein de personnes qui vous observent. Et peut-être que j'ai pris cette habitude de trouver l'énergie, le punch pour communiquer l'enthousiasme. Justement, c'est un mot qui est très juste parce que c'est vraiment un mot qui est important pour moi dans la pop culture et de la pop culture qui veut prétendre transmettre un message. Donc voilà, je pense que moi je travaille de manière chronologique, c'est-à-dire de la première planche à la dernière. Là-dessus, je cherche pas non plus à me mettre dans un état d'esprit particulier avant d'attaquer une planche. C'est pour ça que je reparle encore du piano, parce que voilà, le piano c'est un entraînement, j'ai vécu, c'est un entraînement quotidien, c'est un entraînement où vous n'avez pas forcément envie, vous n'avez pas forcément le bon état d'esprit, mais vous apprenez à le créer pour que l'instant présent finalement tombe juste.
Florent Modeau, vous avez choisi de modeler avec de très fines hachures. Pour la nudité des corps, c'est aussi pas tant. Et puis il y a le noir que vous n'hésitez pas à utiliser, à affirmer, et notamment avec les maraudeurs qui sont plutôt très sombres. Alors là aussi, comment se font ces choix graphiques, Florent Modeau?
Alors assez curieusement, je voulais avec le cloud, je voulais aussi me simplifier la vie en mettant un voile sur les décors et en mettant un voile sur l'horizon pour ne pas avoir à dessiner tout en détail. Et en réalité, ça s'est retourné contre moi. Donc effectivement, j'ai dû changer un petit peu ma manière de voir, notamment les masses de noir que j'utilisais beaucoup plus dans mes précédentes séries. Là, je les utilise seulement effectivement pour ce qui est très proche. Là-dessus, voilà, moi j'ai appris à ancrer sans le noir, parce que le noir, il faut le remplir, hein, tout simplement. Et l'ancrage, avant, je pratiquais ça en traditionnel. Et là, grâce au numérique, le noir, j'utilise beaucoup plus facilement. Parce que je peux me permettre de remplir tout simplement des zones très très vite et revenir dessus pour gommer et utiliser le noir un outil complet. Et ça m'a permis d'utiliser le blanc, en fait. C'est assez curieux, mais le fait de travailler le noir, ça m'a permis de me dire, bah, il faut maintenant, une fois qu'on a fini notre ancrage, quand on passe à la couleur, il faut aussi utiliser les couleurs, les hautes lumières, les highlights, avec du blanc, comme on utiliserait le noir, pour ancrer aussi les lumières. Donc voilà, l'utilisation de l'outil numérique, c'est pas forcément un ami, dans le sens où on peut recommencer. Donc on recommence beaucoup. L'avantage, c'est que du coup on expérimente beaucoup. Et moi, ça me permet aussi d'expérimenter la couleur. Parce qu'à l'origine, je suis plutôt quelqu'un du noir et blanc, effectivement, du modelé et de la lumière. Vous parliez de sculpter, et c'est exactement ça qui me motive. J'aime bien sculpter les personnages, et au final, l'outil numérique m'a permis d'améliorer ma couleur.
Alors, cette mise en couleur, est-ce que vous l'imaginez sur l'ensemble des histoires, ou ça se fait comme le dessin, page par page? Parce qu'il y a vraiment un rythme et un mouvement d'ensemble dans votre mise en couleur, Florent Modeau.
Alors, les mises en couleur, je l'imagine... en fait, je l'imagine pas à l'avance, je l'improvise un petit peu. Sauf peut-être pour la séquence avec les feux d'artifice où je voulais vraiment que ce soit assez unique dans toutes ces couleurs qui pétaradent dans tous les sens, parce que le cloud, enfin le comment dire, le cloud c'est aussi ça, c'est-à-dire que les gangs grenoblois, alors moi je suis pas de Grenoble mais j'ai vécu un petit peu avec ma femme. Les gangs grenoblois tirent des feux d'artifice quand ils ont fait des bons chiffres. Et du coup, en réalité, ils tirent des feux d'artifice tous les soirs. Et du coup, ça m'a rappelé ce film de Takeshi Kitano, Hanabi, qui parle aussi des Yakuza. Et du coup, voilà, cette séquence, je la voulais vraiment particulièrement colorée et liée aux gangs. Mais en dehors de ça, j'improvise un petit peu, c'est-à-dire que je fonctionne avec des palettes de jus qui sont préétablis et maintenant qui permettent d'avoir une couleur assez vibrante et très dynamique effectivement. Donc ça c'est plutôt avantageux et je suis très content de la méthode que j'ai découverte pour Cloud justement, parce que j'ai mis au point une méthode différente que pour mes autres BD.
Florent Modeau, le fait d'appartenir à un label, donc le label 619, qu'est-ce que ça représente pour vous ?
Ça représente beaucoup parce que je ne suis pas seul en fait. Déjà, j'ai travaillé avec Run sur chez Short Story. C'est une histoire qui n'a rien à voir avec Cloud au niveau graphique. On n'est pas sur de la pop culture. On est plutôt sur de la peinture couleur directe. Et c'est les années 50. C'est la reconstitution des années 50. Du coup, c'est des amis, c'est des gens qui vous poussent vers des directions dans lesquelles vous ne seriez pas allé tout seul. C'est aussi une énergie de groupe. Et là-dessus, quand j'ai pratiqué l'escrime médiévale, quand je m'y suis mis, j'ai tout de suite ressenti j'ai compris que je pouvais mettre ces mots là-dessus, le fait de faire partie d'un mur de bouclier, c'est-à-dire que vous êtes dans un organisme et vous n'êtes pas seul aux commandes. Vous êtes pas, c'est à la fois rassurant et à la fois c'est très important il faut que je vienne à ça, parce que c'est très important dans le paysage de la bande dessinée. Les auteurs de BD souvent ils sont assez solitaires. Ils ont peut-être un rapport avec leur éditeur qui peut être assez intime, mais il n'y a pas la logique d'ensemble est moins forte peut-être qu'à une époque où il y avait de la prépublication. Là, le fait de partir sur le fait de faire partie du label 619, ça nous permet déjà d'avoir un organe de publication qui n'est pas vraiment de la prépublication, hein, qui est le Reader, et avant anciennement Doggy Bags, et ça permet de découvrir des jeunes talents. Et comme je suis en atelier, ben naturellement, ces jeunes talents peuvent, on peut discuter et on peut faire éclore des talents qui éventuellement feront des albums. Plus tard, comme Mathieu Babelet ou Guillaume Saint-Gelin, qui ont vraiment fait leurs armes dans les Doggy Bags et qui continuent aujourd'hui dans le Reader. Et voilà, nous, ce qu'on voudrait avec le label 619, avec Run à la tête, c'est marquer notre époque, un peu comme les anciens de Pilote ou bien Metal Hurlant ont réussi à le faire et survivre, enfin, ils continuent à comment dire, pas survivre, continuer à marquer les esprits. Et je pense que les libraires là-dessus sont très sensibles à notre travail, parce qu'il y a une vraie confiance qui s'est installée. Donc voilà, c'est vraiment un élément très important effectivement de ma carrière. Et je pense que dans les années à venir, pour aider les gens à se guider dans une librairie et à trouver des livres qui ne seront pas des livres jetables, qui ne seront pas des livres dont on se sépare prématurément parce qu'on les a vite lus et qu'on veut vite passer à autre chose. Nous, ce qu'on veut faire, c'est des bouquins qu'on réouvre avec plaisir, qu'on ouvre avec ses enfants pour leur montrer, voilà, ça c'est de la BD de pop culture de qualité.
Merci beaucoup, Florent Maudou. Je rappelle les références de votre dernier livre. Donc, Clove Thomas, La Dame de Birka, c'est publié par le label 619, qui est actuellement porté par Rue de Sèvres. Les 116 pages de votre livre sont au prix de 19 euros. Très bonne continuation à vous. Au revoir, Florent Maudou.
Merci.
Au revoir. Pour finir cette émission, je voudrais vous présenter Aqué la peau de Jules Marot et de Sabrina Calvo. C'est un livre hors norme qui a d'étonnantes qualités et qui surtout a une écriture qui décale, qui nous place en tant que lecteur dans un autre univers. Jules Marot, c'est une autrice, auteur-autrice qui a écrit Le bleu est une couleur chaude adaptée au cinéma qui a donc eu un certain succès. Et Jules Marot a continué à écrire. Et cette fois, avec Sabrina Calvo, qui est une scénariste, une artiste nomade et qui écrit sur plusieurs supports, a choisi de présenter, de parler d'une relation différente, du polyamour entre trois personnes. Il y a Axel, il y a Molly, il y a Prine. Et donc, cette écriture va se faire avec des partis pris très forts qui, justement, sont de cette très grande qualité d'écriture. Ce n'est pas descriptif, forcément, du frontal, mais c'est au contraire un récit qui va beaucoup plus s'attacher aux conséquences des actes plutôt que de représenter les actes lui-même. Nous ne sommes pas sur une démonstration de ce que peut être le polyamour avec trois personnes, mais au contraire de montrer comment les attachements, les partis pris, les sentiments qu'il y a entre ces trois personnes vont donner des réactions spécifiques, particulières, à certains moments du récit. Nous sommes vraiment donc sur une situation, un récit qui va se faire au niveau des personnes. Et c'est un des très grands partis pris, puisque le récit se passe à Lyon, dans un moment où l'extrême droite est beaucoup plus active. Il y a des descentes des plus violents d'entre eux qui vont être présents sur l'espace public, qui vont chercher à attaquer les lieux qui sont des abris pour des personnes différentes. Ça, c'est une toile de fond très présente, très énergique sur le récit et qui vont donc aussi modifier véritablement en profondeur les réactions des uns et des autres. Il y a la volonté chez les auteurs, Jules Marot et Sabrina Calvo, de créer deux temporalités. La temporalité principale, c'est celle actuelle où on découvre Axel, Molly et Prine dans ces lieux de la vie lyonnaise et plutôt de la vie nocturne, de la vie de la création. Et puis une autre temporalité qui est faite par quelques séquences dans le passé qui permettent de préciser comment les relations évoluaient, comment les situations se transformaient et ainsi vraiment donner une histoire un peu plus importante à ce récit que simplement les scènes faites sur le moment. Il y a donc une mise en couleur qui va être constamment en résonance et en narration avec ces deux temporalités. Il y a aussi un récit qui va se dérouler le temps d'une nuit et qui va être dense dans ces moments qui sont présentés avec une fluidité assez étonnante. Et l'irruption de cette violence d'extrême droite va être d'autant plus forte qu'elle se déroule sur ce temps très court avec énormément d'intensité. C'est un très beau titre qui montre comment la peau, cet espace de la relation amoureuse, peut être approprié, transformé, perturbé. Et c'est un récit tout en nuances, finesse, surprise, par deux auteurs très contemporains et une grande réussite, à mon avis. À quelle la peau de Jules Marot et de Sabrina Calvo est publié par les éditions du Lombard. C'est un engagement et un acte éditorial fort. Les 96 pages de ce récit sont au prix de 20 euros. Je ne peux que vous souhaiter une très très bonne année à tous. Et à toutes, bonne fête à tous.
Écriture dessinée.